Vous écoutez Radio Libertaire 89.4. C'est Jeudi Noir qui commence en fanfare avec un morceau d'un groupe qui aurait pu être mondialement connu si ce n'avait été son bassiste totalement incompétent. Un groupe qui s'appelait Waffle Iron, dans un morceau mondialement connu aussi, Revenge of the Crab, sur une cassette mondialement connue qui s'intitulait, je crois, Marching Paul. Voilà, donc. Alors, Jean-Mathias, ce soir, va nous parler non pas de Waffle Iron, c'est bien dommage, mais il est incompétent sur ce sujet, lui aussi, un peu comme le bassiste. Et d'un livre donc de Kobayashi Takiji qui s'intitule Le bateau usine, qui a été édité chez Alia. Et donc c'est un livre que je n'ai pas lu, mais qui est noir, qui a l'air intéressant, et qui parle globalement de la condition ouvrière sur les bateaux de pêche japonais dans les années 30 ou 20. Donc souvent on s'imagine l'ouvrier comme un terrien prisonnier d'une grande usine qui ne flotte pas parce qu'elle est sur terre, dans laquelle il construit des choses et de laquelle il peut sortir de temps en temps le soir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 18e siècle, au 19e et ainsi de suite, il y a eu aussi beaucoup d'ouvriers qui étaient sur des bateaux. Et que la condition justement de ces ouvriers sur les bateaux pouvait être absolument terrible. Il y a beaucoup de romans qui font référence. Il y a aussi un historien américain qui s'appelle Marcus Rediker qui a beaucoup parlé de ça, dans Les Forçats de la mer, où il défend l'idée que c'est sûr justement sur ces bateaux, au moment de la colonisation de l'Amérique, que la classe ouvrière va naître en servant de creuset international à tous les réprouvés, tous les renégats. On a fait une émission sur les pirates qui montre aussi peut-être un peu ça. Donc voilà, donc je me demande, j'espère que ce bouquin a l'air vachement intéressant, le bouquin de donc Kobayashi Takiji, Le bateau usine, aux éditions Alia. Et c'est Jean-Mathias qui va nous en parler.
Alors donc oui, sur ce à propos de ce bouquin-là, peut-être. Alors d'abord une première chose, c'est que c'est pas on n'est pas dans le enfin c'est pas un bouquin qui vient de sortir là les dernières semaines hein. Il a été publié chez Alia en 2015 et c'est un, il me semble que c'est une première traduction en français en 2015. Le point intéressant de ce bouquin là c'est son histoire, parce que c'est un livre assez étonnant. C'est un livre de 1929, donc qui est pas récent, et qui en fait a connu une deuxième naissance, on pourrait dire, à la fin des années 2000 au Japon, à l'occasion de la crise en fait,
et à l'occasion de son inscription à un programme scolaire.
Exactement.
Moi ça m'a rassuré, parce que je me suis dit que voilà, ça montrait que l'école pouvait servir à quelque chose de temps en temps.
Alors il y a pas que l'inscription au programme scolaire hein, c'est à la fin il y a une petite notice qui raconte un peu l'histoire du bouquin, c'est assez marrant. Il y a eu une espèce de conjonction un peu étonnante, voilà. C'est un bouquin qui est connu hein, dans le patrimoine de la gauche et de l'histoire de la gauche littéraire, on va dire, de la gauche révolutionnaire japonaise, qui existe, qui est assez peu connu souvent, mais qui existe.
Et qui a pu être très virulente dans les années 70.
Très virulente dans les années 70, enfin, très virulente, et qui, là, on l'apprend un peu aussi, a été aussi très, très, très structurée dans les années 20 et 30. Et en fait, à la fin donc, des années. Au cours de l'année 2008, en fait, pour être très précis, il y a comme ça une série de conjonctions un peu bizarres, des interviews, des entretiens, des activistes un peu connus, un peu post-punk, mais aussi universitaires, qui en fait s'entretiennent, en fait, ou donnent une interview autour de ce bouquin-là. Et puis après, il y a un concours qui est organisé en fait autour du livre. Et en fait, ça va être un succès de librairie faramineux au Japon, c'est-à-dire qu'ils en vendent plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Il y a une espèce de boom. Il a déjà été traduit, le bouquin, précédemment, mais alors du coup, il va être retraduit également. Et il y a une espèce de traînée de poudre. Alors, pas partout dans le monde, c'est avant tout un phénomène au Japon. Mais par exemple, l'auteur signale aussi, enfin, l'auteur de la notice à la fin signale qu'en 2010, ils vont en vendre aussi plusieurs milliers en Espagne.
Il y a une espèce de boom. Il prévoit un manga.
Hein ?
En 2019, il prévoit un manga.
Il prévoit un manga, ouais.
Après Dragon Ball Z.
C'est ça. Non, mais ça existe déjà en BD, hein. Ça existe
déjà.
Ça existe déjà en BD, là. Tu crois pas si bien dire. Et en fait, c'est du coup un bouquin qui est dans le patrimoine, voilà, de la littérature, de la gauche radicale japonaise, et qui d'un coup va comme ça avoir cette deuxième jeunesse, avec une espèce d'identification visiblement massive des jeunes japonais, à la condition des marins, effectivement, d'usine, de ces bateaux-usines des années 20, là, voilà, avec une espèce d'identification comme ça, assez étonnante, visiblement, des tas de témoignages de jeunes qui disent, mais en fait, si vous voulez comprendre la condition des jeunes précaires et des jeunes salariés japonais aujourd'hui, vous lisez ce bateau-là, il n'y a pas plus proche de ça, et à la limite même assez souvent les témoignages, alors bon, est-ce que c'est outré ou pas, c'est un débat, mais le fait de dire qu'aujourd'hui c'est encore pire en fait, d'une certaine manière, que ce qu'était à l'époque, ce qui est un peu... Alors, honnêtement, enfin, à la lecture du bouquin, c'est assez étonnant, parce que pour le coup, on a un livre alors qui est à la fois très, comment dire, classique, je dirais, du point de vue du projet, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'une littérature prolétarienne de la fin des années 20, qui est quand même un genre avec des codes assez précis. Alors c'est fin des années 20, c'est quand même été déjà assez repris par le Comintern, par les comités d'écrivains pro-Union soviétique. On n'est plus dans la grande
crise de les années 30.
On est un peu avant ça. Puis attends, on est au Japon, donc on est dans une configuration un petit peu spéciale, si tu veux. L'antifascisme au Japon, il est
c'est l'Empire.
C'est l'Empire, en fait. On est
dans les
années 20, ils sont pas encore rentrés en Chine, c'est après, dans les années 30.
Là t'es encore dans la queue de comète en fait de la guerre contre la Russie, hein,
oui. qui a été remportée par le Japon en 1905.
Donc là il y a encore les restes de ça, mais surtout voilà, c'est assez étonnant de voir comment ce bouquin, qui est quand même un peu très inscrit dans des codes littérature prolétarienne, mais plutôt stalinienne, c'est-à-dire que le projet, on le sent dans le projet de l'écrivain, c'est d'avoir un truc qui est dans le réalisme prolétarien. Donc en gros, je raconte l'histoire qui est très simple, hein, je veux dire, c'est très résumé, c'est un bateau usine qui quitte en fait un port du nord du Japon pour aller pêcher dans les eaux territoriales russes du Kamchatka, pratiquer la pêche au crabe, qui est une pêche qui se développe à partir des années 20 et qui est très lucrative parce qu'en fait elle rapporte, c'est des produits de luxe, hein, c'est des crabes qui sont en fait pêchés dans des conditions assez difficiles et qui sont vendus sur le marché international comme produits de luxe. Donc c'est une source de denrées, de devises étrangères importantes, et ça se développe beaucoup dans les années 20, voilà. Et donc il raconte comment des pêcheurs embarqué plus ou moins de force en fait sur ce bateau-là, puisqu'en fait on a beaucoup de fils de paysans surendettés, mais aussi d'étudiants surendettés à qui on laisse pas trop le choix et qui, pour du coup payer leurs études ou régler leurs dettes, doivent effectivement une ou plusieurs traversées comme ça sur les bateaux usines. Donc il nous raconte les conditions absolument mais dégueulasses de dans lesquelles sont placés ces marins.
C'est marrant parce que l'enroulement de force dans la marine, ouais, qu'elle soit marchande, ouais, militaire, ouais, c'est une histoire mais qui sont biaisés, ouais, comme le monde.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que le bouquin dont j'avais rendu compte il y a quelque temps sur justement les pirates de la Méditerranée au XIIe ou XIIIe siècle, la plupart de ces histoires, c'est des gens qui sont embauchés de force dans la marine anglaise, arrivent à s'échapper d'une manière ou d'une autre, deviennent esclaves et ensuite deviennent pirates. Ouais. C'est dément parce que tu as une espèce de continuité sur plusieurs siècles et mondiale.
Sur la main-d'œuvre
marine. Prolétarienne, marine.
Et alors là, ça raconte quoi ? Donc il y a ça, si tu as ces conditions-là, donc c'est avant tout... Alors apparemment, il y a des passages qui étaient prévus au départ, on est toujours dans la grande tradition réaliste soviétique, hein, là, quasiment, là, on peut dire, avec des passages qui étaient prévus sur des espèces de considérations techniques sur la pêche au crabe, sur le fonctionnement d'un bateau à vapeur, etc., pour avoir des effets de réel un peu plus forts. Et puis, en fait, donc ces conditions sont absolument épouvantables, et en fait, le roman montre comment, en fait, on a une espèce de, comment dire, de laboratoire qui permet de comprendre la stratégie des sociétés dans une société capitaliste extrêmement autoritaire, extrêmement inégalitaire, et comment en fait tout ça produit une prise de conscience collective de la part des marins qui vont petit à petit prendre conscience de leur force collective, s'organiser, déclencher une grève, découvrir tout un tas de choses, comme quoi comment le nationalisme en fait les arnaque, comment l'armée qui croyait de leur côté est finalement du côté du contremaître sadique, et qui vont petit à petit, donc voilà, c'est l'histoire, si vous voulez, un peu en résumé, de la prise de conscience du prolétariat en situation d'exploitation capitaliste extrême. Alors, ça, c'est un peu le pitch de base qui est pas forcément très excitant, parce qu'on connaît la fin, quoi, voilà. On connaît le début, le milieu, la fin, enfin, on connaît un peu toutes les étapes. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce bouquin-là, et là, ça, je le dis franchement, c'est que, en fait, ça déborde de partout. L'écriture déborde de partout, c'est-à-dire que ça, c'est le programme du tract de base, mais le talent du gars fait que, en fait, ce récit déborde de partout, et qu'en fait, c'est un récit qui est surtout fascinant, parce qu'il y a des moments poétiques incroyables, avec une espèce de violence, de recours aux images qui est complètement dingue, et en fait, de réalisme prolétarien, vous avez des passages qui ressemblent à une espèce de littérature fantastique complètement atypique, quoi. Et donc, évidemment, c'est ça qui est aussi intéressant, et qui fait la force et le succès de ce bouquin-là, c'est-à-dire qu'on a l'impression de lire un tract du parti ouvrier indépendant, et puis en fait on a une espèce de littérature avec des moments fantastiques, des moments et en même temps, évidemment, le propos est en lui-même tout à fait intéressant, et je pense qu'effectivement ça contribue au fait que le bouquin puisse comme ça traverser un peu le temps, hein, et que de 1929 à 2008 il puisse y avoir une identification aussi forte que ça. Alors tu l'as dit, en même temps il y a un imaginaire qui est lié à la mer, qui est lié effectivement à la dureté des conditions d'embarquement, t'as un côté effectivement roman d'aventure forcément, à partir du moment où des gens se retrouvent, tu vois, malgré eux, dans des conditions enfermés dans des espèces de cabines insalubres, et confrontés à des conditions naturelles difficiles, et puis forcément ça crée une espèce d'imaginaire romanesque,
même
d'aventure.
Même le pitch, il fait très 20e siècle, parce que avant l'émission on parlait de Billy Budd, qui est une nouvelle d'Herman Melville, un auteur américain du 19e siècle.
Après,
ça,
parce qu'il y a des...
tu veux y revenir après?
J'y reviendrai après, parce que justement, parce si que... tu veux, il y a
parce
des
justement, Billy Budd, il est seul. Il est seul en but à l'autorité, et il n'y aura pas de prise de conscience.
Alors, il y a deux choses. Il y a, si tu veux, il y a ça. Il y a la manière dont, si tu veux, son écriture, en fait, le fait dépasser complètement les cadres, si tu veux, du réalisme, voilà, communiste, un peu années 30, un peu lourdingue, comme quoi, voilà, tous ensemble, on prend conscience de notre force, et puis voilà, l'avenir du prolétariat, c'est la révolution mondiale. Ce qui peut être un peu lourdingue, parfois, quand, selon la manière dont c'est fait. Là, c'est pas du tout ça, parce que t'as dit, c'est des espèces d'éclairs fantastiques qui dépassent complètement ça. Et puis, il y a autre chose. Alors, je suis pas spécialiste de littérature japonaise, hein, je vais pas m'avancer sur ce terrain-là. Mais il y a quelque chose, comment dire? Bon, il y a d'autres romanciers japonais complètement à l'autre bout du spectre politique, hein, quelqu'un comme Mishima, par exemple, que j'ai un peu pratiqué. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que...
Ouais, bah, dis deux, trois mots sur Mishima,
ouais,
quand
alors
même.
Mishima est un roman, c'est autre chose, c'est un romancier, donc
il finit par suicider,
qui suicide,
dans
par kamikaze.
Dans des conditions.
Bon, alors on est sur complètement autre chose, hein. Là, Mishima, c'est un romancier japonais d'après-guerre, plutôt classé à l'extrême droite nationaliste, très conservateur, traditionnaliste, et qui donc, de manière revendiquée, hein, et qui en même temps qui a une œuvre qui est complètement foisonnante et qui aussi dépasse d'un peu partout le tract d'extrême droite japonais, hein, faut quand même le dire, qui est assez fascinante à part pas mal d'aspects, pas tout, mais voilà, c'est aussi voilà un des romanciers qui parle et qui décrit et qui développe l'homosexualité dans la littérature au Japon après-guerre, tout en étant par ailleurs voilà le traditionnaliste et l'ultra-conservateur qu'il est, et qui va finir effectivement par se faire un kamikaze au sabre à l'ancienne, en face du palais impérial, après avoir exhorté en vain des soldats japonais à faire la révolution pour établir l'autorité impériale. Bon, ça c'est pour aller vite. Donc c'est une espèce de héros...
C'est un seppuku,
voilà. C'est une espèce de héros pour l'extrême droite internationale et nationalisme un peu radical international. Bon, mais là aussi c'est pareil, ce qui est intéressant ce romancier là c'est que ça dépasse tout le temps de partout en fait, quoi, et qu'il est une écriture qui est assez fascinante de ce point de vue là et je reviens à mon affaire, c'est qu'il y a un certain nombre de romans de Mishima qui tournent autour aussi de la mer, de la pêche, hein, et qui mettent en place une espèce de, je trouve moi, une forme d'héroïsme du pêcheur, l'homme face à la mer, etc., l'homme confronté aux éléments, en même temps l'homme qui est confronté à ses limites. Il y a une esthétique qui est assez effectivement construite autour de ça, sauf que
le côté du sublime dans l'affrontement de
l'infini. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui voilà, c'est un thème qu'on trouve effectivement dans au moins chez ces deux romanciers-là, que ce soit Takiji, donc du côté réalisme prolétarien, et je pense par exemple au Tumulte des flots chez Mishima, qui est un roman admirable. Mais la différence, c'est que
c'est son nom de famille. Je pense que son nom de famille, c'est Kobayashi.
D'accord. Et le point important, c'est que du côté chez Mishima, on a toujours une forme d'héroïsme ou cette espèce du sublime, la face à la mer, les tempêtes, le vent, etc. C'est toujours un héroïsme individuel. Alors que là, évidemment, on a la construction d'une espèce d'héroïsme collectif. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'équipage, c'est le groupe, le collectif qui petit à petit prend conscience de sa force, de lui-même, etc., des limites de chaque individu. En fait, les personnages ont des biographies, c'est toujours la même. C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que c'est, voilà.
Des héros, c'est des anonymes qui
C'est des anonymes qui deviennent héros ensemble. Voilà. Mmh. Alors évidemment, du coup, voilà, il y en a un qui est évidemment plutôt du côté de la gauche révolutionnaire et de l'autre qui est plutôt effectivement du côté de l'impérialisme traditionnel. Mais, et en même temps, ce qui est marrant, enfin, il me semble, hein, je dis peut-être, je m'avance peut-être un peu là-dessus, mais il y a des ressemblances en fait dans sur les thématiques, sur la manière et dans les images qui sont mobilisées en fait, hein, pour décrire ça. Voilà, c'est la vie, les conditions de pêche, la confrontation aux éléments. Voilà. Donc c'est tout ça pour dire que
après c'est peut-être des images que tu retrouveras aussi encore chez Melville.
C'est clair.
Par un Moby Dick.
C'est clair que t'as un imaginaire de la tempête, de la mer, de l'infini, de l'océan,
etc. Les conditions de vie sur les bateaux étaient extrêmement difficiles.
Tout à fait.
C'était une époque où ça restait quand même extrêmement risqué. Ça l'est toujours d'ailleurs. Donc bon.
Mais t'as une espèce de, enfin voilà, de comment dire, t'as un rapport aussi voilà de fatalisme un peu contemplatif par rapport à la mer, par rapport à la tempête, aux éléments, etc. Voilà, que tu retrouves là et qui donne du coup, et je termine là avant qu'on fasse une première pause là-dessus, qui donne quand même du coup une lecture qui est assez très agréable, parce que voilà, on pourrait craindre voilà d'être face à un tract un peu genre
un tract militant,
le manifeste du parti communiste japonais pour les nuls, quoi. Mmh.
En bateau,
et en fait c'est tout autre chose, hein. On a vraiment je vais lire plusieurs extraits après pour que tout le monde puisse un peu mesurer ça, mais ça voilà, ça déjoue le programme de base, et tant mieux. Voilà,
allez, de la musique maritime maintenant.
Every day I wake up and I wonder what's
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. C'est donc Jeudi Noir qui se poursuit pour sa pour la deuxième partie de son émission, consacrée donc à un roman de Takiji Kobayashi, Le bateau usine, édité chez Alia. Et donc on vous parlait un petit peu du contexte dans lequel ce roman a été écrit, donc le Japon dans les années 20-30, au moment où justement par un communiste japonais qui fait qui sans doute décide de faire œuvre de propagande et qui finalement va écrire peut-être malgré lui, peut-être de façon tout à fait consciente, une œuvre qui dépasse largement ce cadre propagandiste et qui atteint sans doute un niveau qui est relativement universel, enfin qui peut parler à beaucoup de gens en tout cas, si ce n'est à tout le monde, puisqu'il décrit l'expérience des êtres humains confrontés à quelque chose qui les dépasse et qui les écrase et qui peuvent peut-être contre lequel ils peuvent peut-être s'organiser en tout cas à condition d'être plusieurs quoi tout simplement.
Alors peut-être si on veut qu'on ramène ça à des choses que peut-être plus connues d'un public de lecteurs francophones, il y a en fait
une seconde, j'ai oublié de dire, vous venez d'entendre une petite musique de 666 Social Drowning. Voilà, donc c'était 66 c'est le mal de mer, et puis Social Drowning c'est se noyer socialement. Voilà, c'était l'émission thématique, la musique thématique choisie par José.
C'est indispensable, sinon on voit pas le sens quoi de tout ça quoi.
C'est ça.
Je veux dire.
Le sens c'est en bas. Ouais. Quand on se noie.
Et donc, oui, je disais, à l'instant, tu disais, est-ce que malgré lui, est-ce que ça le dépasse pas malgré lui, etc., cette histoire de, cette espèce de côté fantastique du truc. Pour amener ça à des choses peut-être, connues peut-être par les auditeurs francophones, il y a en France aussi une tradition de littérature prolétarienne. Alors, pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire que ça commence avec des gens tout à fait remarquables comme Marcel Martinet, par exemple, qui est un libertaire, lui, pour le coup, un libertaire et un syndicaliste révolutionnaire, en tout cas proche de ce mouvement-là. Et qui va écrire, pensez par exemple pour ça a été réédité chez Agon ça il y a déjà quelques années, là un certain nombre de textes qui étaient issus de sa revue Les Temps Maudits, et vous avez pareil, il y a des espèces d'envolées comme ça à la fois qui ont une dimension fantastique et qui dépassent très très largement le tract de propagande prolétarien qu'on peut lire parfois dans certains de ses programmes. Henri Poulaille aussi par exemple, qui est aussi qui s'inscrit et qui a revendiqué cette étiquette là de littérature prolétarienne. Et puis sans doute un des plus connus en France, c'est Barbus. Ouais. Barbus qui est en fait une source d'inspiration directe de Kobayashi Takiji. Et en fait, Kobayashi Takiji a fondé d'ailleurs au Japon une revue qui s'appelle Clarté, comme celle de Barbus en France. Donc il découvre Barbus et la littérature prolétarienne à cette occasion-là. Et donc voilà, il y a aussi effectivement peut-être cet écho-là par rapport à une tradition littéraire plus française, plus francophone, et du coup qui explique peut-être l'attrait
tu mettrais Louis Guillou et Le Sang Noir, genre de choses dans cette branche ou pas?
Louis Guillou c'est un peu plus ancien que ça, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont, Louis Guillou est pas un militant politique, ce qui est le cas de Martinet ou de Martinet. C'est un militant socialiste,
il sera présent dans les réunions antifascistes des années 30 malgré tout,
et puis effectivement il y a aussi d'autres textes de Guillou qui s'inscrivent aussi là-dedans. Tu peux effectivement le classer là-dedans. Après, je suis pas spécialiste de l'histoire de ce courant-là littéraire en France. Après, ça a été très vite quand même remis sous contrôle du Parti communiste. Et du Parti communiste français, stalinien. Donc, si vous voulez, la littérature prolétarienne dégénérée, c'est le Aragon des années 30, quoi. Donc voilà. Mais là, en l'occurrence, on n'est pas là-dedans. Alors, peut-être pour donner une idée du timbre, je dirais, d'écriture qu'on trouve là-dedans, lire peut-être un petit extrait. On est au début du texte, la page 47. Des pêcheurs et des marins s'étaient attroupés en grande effervescence dans le réduit sombre menant à la salle des machines. À chaque oscillation du navire, un faible faisceau de lumière coulait sur eux. Des visages de toutes sortes, fébriles, apparaissaient tour à tour pendant une seconde, puis disparaissaient. Le mineur vint voir ce qu'il se passait. Ce salaud d'Azakawa, on va lui faire la peau. Azakawa est le second, le petit chef intendant qui martyrise tout l'équipage. Donc ce salaud d'Azakawa, on va lui faire la peau. La tension était palpable. L'un d'eux expliqua qu'un bateau qui mouillait à une dizaine de milles du Akomaru, c'est le nom du bateau, avait envoyé le matin même une alerte de vent violent. Le message conseillait explicitement de faire revenir de toute urgence les chaloupes qui se seraient trouvées en mer. Grâce à une confidence du radio, ils avaient su, Kazakawa avait alors déclaré « Si on doit s'affoler pour un oui ou pour un non, le travail n'avance pas. Ça sert à quoi de venir jusqu'au Kamchatka dans ces conditions ?» Le premier pêcheur qui avait entendu cette histoire avait fulminé devant le radio, comme s'il avait en face de lui Asakawa en personne. « Mais c'est pas possible de se foutre de la vie des hommes à ce point. La vie des hommes, ouais. Mais voyons, Asakawa ne vous considère pas comme des êtres humains. » Le pêcheur avait voulu répondre, mais n'avait su que bafouiller quelques mots. Son visage s'était embrasé, puis il avait couru informer les autres. Il se tenait debout, la mine inquiète, laissant cependant deviner la sourde colère qui leur montait des tripes. Un ouvrier, dont le père était sorti dans l'une des chaloupes, faisait les 100 pas à l'extérieur du cercle. Les étais vrombissaient au-dessus de leur tête, en entendant ce bruit ininterrompu, ils avaient le cœur en charpie. En fin de journée, un grand cri retentit depuis la passerelle. Les hommes qui étaient dans le dortoir montèrent deux à deux les marches. Deux chaloupes approchaient. Elles étaient attachées l'une à l'autre par un cordage. Elles étaient désormais tout près, mais les vagues élevaient puis abaissaient alternativement le navire et les chaloupes dans un violent mouvement de balançoire. De grosses vagues arrivaient l'une après l'autre, quelques mètres seulement séparaient les chaloupes du navire et cependant, il était impossible de les amarrer bord à bord. Les hommes étaient à cran. Depuis le pont du navire, ils lancèrent un cordage qui n'atteignit hélas pas les chaloupes. L'extrémité retomba dans l'eau, soulevant une gerbe d'écume inutile. Le cordage hissé vers le haut s'agita comme un serpent de mer, et ceci se répéta un nombre incalculable de fois. Du navire, on criait à l'unisson, mais nulle réponse ne parvenait. Les visages des pêcheurs restaient figés, pétrifiés comme des masques. Leur regard semblait s'être subitement changé en glace. Les voir dans cet état, avec ces yeux effroyables, cela leur transperçait la poitrine. On lança à nouveau le bout. Au début, il avait la forme d'une crosse, puis son extrémité se déroula avec l'ondulation d'une anguille, et il parut se ramollir. Mais, à cet instant, il faucha le cou du pêcheur qui avait levé les mains pour l'attraper. Sur le pont, les hommes laissèrent échapper un cri. Le pêcheur bascula sur le côté, mais il tint bon. Le cortège, en se tendant, se dégorgeait de son eau. Sur le pont, les hommes sentirent la tension tomber de leurs épaules. Le vrombissement ininterrompu des étais s'amplifiait ou faiblissait selon le vent. Avant la tombée de la nuit, presque toutes les chaloupes purent être récupérées, sauf deux. Tous les pêcheurs étaient au bord de l'évanouissement au moment où ils foulaient enfin le pont du navire. L'une des deux chaloupes disparues avait été abandonnée par ses hommes parce qu'elle avait pris l'eau. Ils avaient jeté l'ancre avant d'être pris à bord d'une autre chaloupe. Pas de trace de la dernière embarcation ni de ses hommes. L'intendant était hors de lui. À plusieurs reprises, il descendit dans le dortoir des pêcheurs pour remonter aussitôt. Les hommes restaient muets, dardant vers lui des regards incandescents de haine. Le lendemain, il fut décidé que le navire allait reprendre sa route pour chercher les chaloupes et en profiter pour localiser les crabes. « On va pas pleurer 5 ou 6 bougres qui manquent », c'est l'intendant qui parle. « Mais ces chaloupes, je m'en remets pas », dit l'intendant. Donc on a ça, alors bon, un thème voilà, classique évidemment, avec... alors,
c'est marrant, il y a très longtemps, sur une dernière émission qu'on avait faite pour la Bibliothèque anarchiste, on avait parlé d'un bouquin publié par un Russe dans les années, à partir d'une étude qu'il avait faite aux États-Unis dans les années 30. Et ce que dit l'intendant là, ça me fait penser à ce qu'avait dit un contremaître d'un chantier aux États-Unis où ils étaient censés creuser un canal, un tunnel dans dans de la silice. Et il s'est aperçu qu'il y avait de la silice là où ils devaient creuser pour relier un cours d'eau à un barrage électrique. Il s'est aperçu que c'était de la silice et de la silice, on pouvait en faire quelque chose d'un point de vue industriel. Le souci, c'est que ça donne la silicose. Mais pour si on protège les, on le savait déjà dans les années 20-30, et si on protège les voies respiratoires des ouvriers, il n'y a pas de problème. Et le contremaître, ils avaient recruté essentiellement des noirs américains, et le contremaître avait dit je ne vais pas dépenser un dollar pour les ouvriers, pour chaque ouvrier. Et bon, quasiment tous les ouvriers sont crevés, hein, sur le chantier. Mais c'est marrant ce genre de truc. C'est vraiment très typique du. Ouais. En gros, on protège le capital mort, c'est-à-dire les moyens de production, mais la main-d'œuvre, elle crève, et on le sait, et on s'en fout.
Et ça va même au-delà de ça, parce qu'en fait, ce qui déclenche, si tu veux, la prise de conscience de l'équipage, là, c'est un petit peu avant. Et ça, c'est un fait divers, inspiré d'un fait divers réel. C'est, en fait, ces bateaux, en fait, sur lesquels sont embarqués les marins, sont en fait des espèces de vieux rafiaux, complètement au bord du naufrage, qui sont en fait des bateaux russes récupérés, donc qui ont déjà une vingtaine d'années. C'est des anciens bateaux de guerre russes, qui ont été récupérés après la guerre, contre la Russie, et qui ont été reconvertis en bateaux de pêche, mais qui sont absolument pas conditionnés ni conçus pour ça. Et en fait, ils partent à plusieurs, si tu veux, organisés par le même armateur. Et au tout début, en fait, de la pêche, donc ils montent plein nord, ils vont piquer des crabes dans les eaux territoriales russes, qui sont déjà communistes à l'époque, avec toute une propagande qui est faite auprès de l'équipage en disant ces Russes-là sont des barbares, sont des abrutis, sont des incultes. Nous, on est membres du glorieux empire japonais, etc. Et donc, on va leur piquer leurs crabes à ces abrutis de communistes. Et en fait, il y a un des bateaux en fait, qui envoie un signal, un SOS au moment d'une tempête. Et en fait, le contremaître là, dont il est question, l'intendant, décide, mais discrètement, juste en présence du radio, de ne pas répondre au SOS. Et donc, en fait, le bateau disparaît, coule corps et bien avec tout son équipage. Parce que justement, ils peuvent pas en fait prendre le risque, si tu veux, de prendre du retard sur la pêche. Et il y a pour le coup même le capital mort, c'est-à-dire même l'outil de production. Ouais. Le bateau est un bateau de merde qui n'a aucune valeur, pas plus que l'équipage qui est dessus. Ce qui compte, c'est effectivement, ça va être la pêche,
la récolte.
La récolte. Point barre. Hein, c'est tout ça. Et donc c'est un fait divers réel, c'est-à-dire que t'as un bateau effectivement qui avait été abandonné par le reste délibérément par le reste de la flotte. Alors pas avec 400 ou 500 morts, mais 200 sur les 400 d'équipage. Donc c'est effectivement, c'est la réalité, si tu veux, de l'exploitation des ressources maritimes et puis du prolétariat japonais dans les années 20. Ça il y a pas de problème là-dessus. Mais alors je voulais peut-être relire un autre passage du livre là-dessus, parce que c'est un des thèmes. Tu parlais tout à l'heure de Melville et de Billy Budd, alors qui raconte effectivement aussi pareil l'injustice en mer, au sein, voilà, en huis clos, un équipage, et comment effectivement un mousse, alors là on est au moment de la Révolution française, hein, dans le livre juste après, dans le livre de Melville, et comment un des mousses sur le bateau va se retrouver victime d'injustice de la part d'un contremaître, avec des brimades sexuelles, avec des brimades aussi dans son service, dans la manière effectivement d'être sur le bateau.
Tout part du fait que le mousse attire sexuellement le contremaître, et que le mousse refuse les avances.
Exactement. Et du coup, derrière, il y a évidemment toute une série de brimades et puis de sadisme de la part du contremaître. Et un des thèmes du livre, c'est qu'au fond, au moment de dénoncer en fait l'injustice, au moment de dénoncer les brimades du contremaître, Billy Budd se retrouve sans voix, en quelque sorte. Donc évidemment, il y a des tas d'interprétations de ça, en disant voilà comment effectivement justement l'injustice commence lorsque quelqu'un est privé de la capacité en fait de parler, d'articuler un langage et de dénoncer en fait l'injustice dont il est victime.
Oui, c'est vieux, ça remonte à Aristote. Hein,
alors voilà, bon, bien sûr.
La politique d'Aristote, l'idée que l'homme est un animal politique, parce qu'il peut exprimer le juste et l'injuste,
exactement.
Et pas seulement le plaisir et le déplaisir.
Et là, alors évidemment, dans ce texte-là, pour le coup, qui nous raconte la prise de conscience du prolétariat marin japonais, il y a en fait une espèce de c'est un peu l'anti-Billy Budd, c'est-à-dire que petit à petit, par la force du collectif, ils vont apprendre justement à exprimer ça, et de manière assez significative, à la fin du livre, lorsque se déclenche la grève, c'est en fait un des membres d'équipage qui est bègue, et qui va se retrouver évidemment au moment de l'AG, le porte-parole du collectif. Alors je lis le passage, parce que bon, c'est les clés sont lisibles et en même temps sont assez évidentes, et en même temps je trouve qu'il y a une manière effectivement d'interpréter une partition très classique qui est assez plaisante et assez fascinante même. Alors voilà, donc je vous dis, donc là on est tout à la fin du texte, hein, pour le coup là l'extrait que j'avais prévu était au début.
Kobayashi Takishi, bateau-usine.
Alors, donc on est dans page 148, tous se rassemblèrent sur le pont. Le Beg, les étudiants, Shibora et la Ramenpa. Ça, ce sont des surnoms d'un certain nombre de personnages qui émergent quand même, avec une biographie très mince, mais comme ça, des caractéristiques de comportement ou de d'apparence très, très, très directe, on va dire. Donc, ils se réunirent pour rédiger les revendications. Ils avaient décidé de les remettre à l'intendant devant tout le monde. Cependant, depuis que l'intendant et les autres chefs avaient appris que les pêcheurs commençaient à s'agiter, on n'en avait plus vu la couleur. C'est louche. Dit le premier, t'as raison, c'est louche. S'il débarque avec son pistolet, ça va mal tourner. Le bec se plaça un peu en hauteur. Tous les autres l'applaudirent. Mes amis, alors là il est plus bec. Mes amis, voici que l'heure tant espérée est venue. Nous l'attendions depuis si longtemps. Mourant, déjà mort à demi, nous attendions. Tôt ou tard, il fallait qu'il paye. Eh bien, le moment est venu. Mes amis, avant tout, n'oubliez jamais que nous devons nous rassembler. Quoi qu'il arrive, ne jamais trahir un compagnon. Si on y tient fermement à cette règle, on les écrasera comme des sauterelles. Ensuite, le second principe, eh bien, mes amis, le deuxième principe, bah, c'est encore de se rassembler. Qu'il n'y ait pas un seul déserteur qui quitte nos rangs, pas un seul traître, un seul qui retourne sa veste. Comprenez bien qu'un seul abandon suffira à envoyer 300 hommes à l'abattoir. J'ai bien dit, un seul traître. Ça va, on t'a compris, compte sur nous, allez, continue. Ils pourront rien contre nos revendications, ces salauds, on ira jusqu'au bout, mais la réussite dépendra uniquement de votre capacité à montrer la force de l'unité. Ensuite, le délégué des marins se leva, puis ce fut le tour du délégué des machinistes. Il parla avec des mots qu'il n'avait jamais prononcés auparavant, il en était le premier surpris. Entre chaque phrase, il devenait tout rouge, tirait sur le bas de sa veste de travail, triturait les trous d'usure du tissu. Quand les gars qui l'écoutaient s'aperçurent de son embarras, ils se mirent à rire en frappant le sol avec les pieds. Bon, d'accord, je m'arrête là, mais écoutez-moi bien, va falloir que vous leur foutiez sur la gueule. Sur ce, il quitta l'estrade. L'assemblée l'applaudit de manière forcée. Quelqu'un assis au fond en rajouta encore « T'aurais dû te contenter de la dernière phrase !» Ce qui déclencha une nouvelle salve de rire. Le machiniste suait plus que lorsqu'il maniait la pelle à charbon près du foyer de la chaudière en plein été. Le sol manquait sous ses pieds. Une fois retourné à sa place, il interrogea ses compagnons. Mais qu'est-ce que j'ai raconté, moi ? Un étudiant lui tapa sur l'épaule en rigolant. T'inquiète pas, c'était bien. Bah, c'est ta faute, il y avait d'autres gars, fallait pas me demander à moi. Trois petits points. Voilà. Donc là, on a vraiment. Alors bon, c'est presque voilà, un topos, je dirais, un lieu commun de cette littérature-là. Le moment, effectivement, collectivement, comme ça, des figures émergent, pas justement par la prise de parole. Et c'est pas pour faire des morceaux d'éloquence, hein, on voit qu'effectivement, on est là-dessus. Mais parce qu'effectivement, il y a un moment où voilà, le fait d'être capable de parler publiquement et de parler au nom, effectivement, du collectif, du public, est évidemment le point de bascule qui fait qu'on n'a plus affaire à des objets, à des gens qui sont manipulables et qui sont réduits à leur pure force de physique de travail, quoi, hein, et qu'on a autre chose. Donc ces deux extraits sont assez parlants de ce point de vue-là. Donc du coup, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la référence à Billy Budd, là on a une espèce d'antidote, hein, à cette espèce d'impuissance de
la prise de parole collective, voilà, l'organisation
qui permet de dépasser le mutisme imposé, l'espèce de voilà de rester sans voix face à la justice dont on est victime.
Le mutisme presque mécanique de l'individu écrasé par tout un système social, tout simplement, je pense. Bien que bon, il n'y a pas de, c'est compliqué sinon.
Ouais. Alors, t'as évidemment donc ça c'est un des thèmes. Alors bon, il y a d'autres passages encore. Il y a au moins deux thèmes qui sont aussi assez marrants. Alors il y a une scène tout à fait incroyable qui en fait, alors la fameuse chaloupe perdue lors du premier extrait là que j'ai lu tout à l'heure, la troisième chaloupe. Finalement, ils vont la retrouver, hein, un peu plus tard. Sauf que en fait, ils vont apprendre que lors de son errance suite à la tempête, cette chaloupe en fait, elle a fini par accoster en Union soviétique sur les côtes russes et qu'elle donc va se retrouver accueillie par des paysans russes qui parlent pas un mot de japonais, les mecs eux-mêmes ne parlant pas un mot de russe évidemment. Et il y a un récit, alors bon, peut-être on va faire une petite pause, puis je vous lirai ça après la pause, c'est un récit qui est tout à fait que je trouve assez fantastique, de la confrontation et de l'accueil de ces marins japonais en perdition par les soi-disant barbares russes, et qui vont se retrouver au fin fond de la du nord de la Russie, mais qui vont quand même tomber sur un commissaire politique tout à fait pédagogue, bien évidemment. Et vous allez voir comment la scène est décrite. Why don't you eat your face, sir? It is good for you, but why don't you eat your face, sir? It is good for your brain. Eat your face, my son. Eat your face, eat your face. Fish is good, fish will make a man of you. Fish is funny, but fish is good, fish will make a man of you. Fish is funny, but fish is good, fish will make a man of you. Eat your fish. Eat your fish. Eat your fish.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et peut-être dernière partie, où on vous parlera, on continuera de vous parler d'un livre de Takeshi Kobayashi, Le bateau-usine, édité chez Alia, en 2008, c'est ce que tu disais ?
2015
pour la traduction française, en 2008, réédité en Japon, au Japon en 2008. Ouais. C'est un livre qui date qui a été publié pour la première fois dans les années 30, c'est ça ?
1929,
voilà. Et qui parle donc de la condition des marins japonais sur les bateaux de pêche envoyés de manière totalement, comment dire, illégale, clandestine, pêcher le crabe sur les côtes russes. Et donc les côtes soviétiques même à l'époque, déjà.
Soviétiques,
on est en plein dedans, puisque Trotsky a été chassé depuis un certain temps de l'Union soviétique. Et donc là, tu voulais nous parler d'un gentil commissaire politique soviétique qui allait apprendre la vérité à ces malheureux pêcheurs japonais.
Bah c'est un des thèmes du livre, évidemment, la prise de conscience révolutionnaire et prolétarienne de l'équipage. Et donc, je disais que c'est un des extraits que je disais tout à l'heure, au cours d'une tempête annoncé et qui empêche pas l'intendant, le contremaître, en fait, de lancer ses hommes sur la mer dans des conditions complètement dingues et complètement ultra dangereuses. Il y a une des chaloupes, pardon, qui disparaît, en tout cas, qui manque à l'appel le soir. Et puis finalement, ils vont la retrouver. Et en fait, on apprend donc que l'équipage de cette chaloupe a trouvé refuge, ou en tout cas a été accueilli sur les côtes russes soviétiques. Donc, et donc, ils ont rencontré ces barbares contre lesquels on les forme et on leur bourre le crâne en leur disant que surtout faut pas qu'ils basculent de ce côté-là, parce que ces communistes barbares incultes n'ont rien à voir avec la grandeur du peuple japonais et qu'il faut leur montrer de quel bois on chauffe, etc., etc. Alors, je vous lis ce passage-là. Bon, c'est un petit peu long, mais je vous lis quand même parce que je trouve que c'est sur l'internationalisme prolétarien, pour le coup, ça se pose là, c'est assez drôle. Donc alors là, donc on est après donc la scène que je disais tout à l'heure, là, lorsque les deux chaloupes sur trois sont récupérées. Donc trois jours après que le Hakomari eut retrouvé son cap, donc après la tempête, voici que soudain on vit revenir la fameuse chaloupe manquante. Et qui plus est, tous les marins étaient bien vaillants. À peine arrivé dans le merdier, entre guillemets, alors le merdier, c'est comme ça qu'ils appellent leur cabine, le dortoir, en fait, commun, qui est une espèce de bouge infâme avec des punaises, des poux, dans une densité incroyable, pas de lumière, enfin bon, vous imaginez, donc d'où le nom. Donc à peine arrivé dans le merdier, après un bref passage dans la cabine du capitaine, ils se retrouvèrent encerclés par tous les autres. Ils racontèrent comment ils s'étaient retrouvés dans une terrible tempête, sans trêve, à la merci du vent, sans défense encore, plus qu'un gamin attrapé par la peau du cou. Ils s'étaient éloignés beaucoup plus que les autres chaloupés. Le vent leur était contraire. Ils s'étaient résignés à mourir. Les pêcheurs ont tous l'habitude de penser qu'ils peuvent mourir pour un rien. Mais voilà qu'il leur était arrivé une aventure peu banale. Pardon. Le lendemain de la tempête, alors que leur chaloupe était à deux doigts de faire naufrage, ils avaient été rejetés par les vagues sur les côtes du Kamchatka. Puis, ils avaient été secourus par des Russes qui vivaient là. C'était une famille de quatre personnes, il y avait une femme, des enfants. Pour ces hommes privés de la chaleur d'un foyer, cet endroit recelait un charme indicible. Et puis, tous ces gens étaient gentils, terriblement bienveillants envers eux. Pourtant, il faut bien dire qu'au début, ils n'étaient vraiment pas à l'aise avec ces étrangers. Leur langage incompréhensible, la couleur de leurs cheveux, de leurs yeux. Mais ils n'avaient pas tardé à s'habituer. Eh bien oui, les Russes étaient aussi des êtres humains. Quand la nouvelle se fut répandue qu'il y avait des naufragés, de nombreux villageois étaient venus les voir. C'était un village très éloigné des zones de pêche japonaises. Ils y avaient passé deux jours, le temps de reprendre des forces avant de regagner le navire. « On voulait plus rentrer, » dit-il. « Pardi, qui serait assez fou pour souhaiter retrouver pareil enfer. » Mais ce n'était pas tout. Ils n'avaient pas encore évoqué le clou de l'histoire. Ça s'était passé pile le jour de leur retour. Tandis qu'ils étaient en train de se préparer, tout en bavardant près du poêle, quatre ou cinq Russes étaient venus les voir. Avec eux, il y avait un Chinois. L'un des Russes s'était mis tout à coup à parler d'une grosse voix en faisant des gestes. Il avait un large visage, rougeaud, une barbe courte et drue, le dos un peu voûté. Le chef de la chaloupe avait agité les mains devant son visage pour dire qu'il ne comprenait pas le russe. Alors, le russe s'était interrompu pour laisser le chinois répéter en japonais ce qu'il venait de dire. C'était un drôle de japonais, avec des mots dans le désordre plus déconcertants que du russe encore. Des mots qui marchaient de travers, comme s'ils avaient un coup dans le nez. Donc, résumé de la conversation, « Sûrement, vous, pas argent. Ah, pardi, vous, pauvre, c'est ça. Alors vous, prolétariat, comprendre ?»« Ouais, » répondent les Japonais. Le russe hilar s'était mis à marcher de long en large. De temps en temps, il s'arrêtait pour regarder dans la direction. Alors ça, c'est le russe traduit par le chinois en japonais qui dit « Riches font-vous ça ?» Il fait le geste d'étrangler. « Riches, plus en plus gros. » Il sort le ventre. « Vous, on n'y peut rien. Vous, pauvre. Comprends ? Le Japon, pas bien. Gens qui travaillent comme ça. Il imite un malade, le visage tordu de douleur. Gens qui travaillent pas, comme ça. Hé 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 hé, il fait mine de parader. Le spectacle plaisait beaucoup à un jeune pêcheur qui éclata de rire. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Il continue. Gens qui travaillent comme ça. Gens qui travaillent pas comme ça. L'homme répétait son manège. Comme ça, pas bien. Gens qui travaillent comme ça. Et là, au contraire, il bombe le torse d'un air fier. Gens qui travaillent pas, comme ça. Il imite alors un vieux mendiant. Ça, c'est bien. Comprendre ? La Russie, ici. Que des gens qui travaillent. Que des gens qui travaillent comme ça. Et il bombe le torse. Dans Russie, gens qui travaillent pas, il n'y a pas. Gens pas honnêtes, il n'y a pas. Gens qui tuent nous, il n'y a pas. Comprendre ? Russie, pas du tout pays qui fait peur. Ils tous disent mensonges. Alors les pêcheurs s'étaient vaguement demandé si c'était pas là ces effrayants discours rouges contre lesquels on les avait mis en garde, mais en même temps ils se disaient que si c'était ça, alors la propagande rouge ressemblait bigrement à du bon sens. L'enthousiasme du russe était communicatif. On comprend, ah bah ça on comprend. Deux ou trois russes s'étaient mis à parler entre eux avec entrain. Après les avoir écoutés, le chinois s'était remis à parler en ânonnant. Il piochait les mots japonais un à un. Il y a des gens qui travaillent pas et gagnent beaucoup d'argent. Alors prolétariat, toujours ça. Il fait mine d'être pris à la gorge. Pas bien ça. Prolétariat, c'est vous. Un homme, deux, trois, 100 hommes, 1000 hommes, 50 000 hommes, 100 000 hommes, tout le monde, tous comme ça. Il leur tient les mains comme font les enfants. Ensemble, plus fort, pas problème. Il leur donne des tapes sur les bras. Pas défaite, contre personne, comprendre ? Ouais, ouais. Les gens qui travaillent pas, fuir. Il fait semblant de s'enfuir à toutes jambes. Pas problème, c'est vrai. Gens qui travaillent, prolétariat, fier. Il marche d'un air digne. Prolétariat, les meilleurs. Prolétariat, disparaître. Tous, ils ont pas de pain. Tous, ils meurent. Comprendre ? Ouais, ouais. Japon, pas encore. Pas encore bien. Gens qui travaillent comme ça. Il courbe les chines, se recroqueville. Gens qui travaillent pas, comme ça. Il bombe le torse, fait mine de passer un adversaire à tabac. Tout ça, pas bien. Gens qui travaillent comme ça. Bon, vous avez compris en gros le type de la scène. Et donc au Japon, donc il continue avant de terminer. Au Japon, gens qui travaillent maintenant, agir. Ils se lèvent, s'opposent à l'adversaire. Heureux. En Russie aussi, tous heureux. Banzai, dit-il. Vous retournez à bateau. Sur bateau, les gens qui travaillent pas, comme ça, ils bombent le torse. Vous, prolétariat, vous le faire. Il fait mine de se bagarrer. Puis il imite les enfants qui se donnent la main et fonce à nouveau tête baissée. Pas problème. Vous gagnez. Comprendre ? Un jeune pêcheur qui s'était laissé enthousiasmer par ses propos s'était levé d'un bond pour saisir la main du chinois. On le fera, pour sûr, on le fera. Et donc ensuite, voilà, la scène se termine. Le chef de chaloupe, qui commençait à s'inquiéter de l'enthousiasme soulevé par le récit, tapota l'épaule d'un des jeunes pêcheurs qui tenait ses propos enflammés. Allez, ça suffit maintenant. Hein, oui. Mais donc évidemment le verre est dans la pomme, c'est-à-dire qu'après ce discours extrêmement sophistiqué du commissaire politique stalinien, l'équipage voilà va petit à petit prendre conscience de sa force. Alors ensuite vous avez parce que c'est aussi tout, il y a la dimension de propagande du roman bien évidemment, vous avez aussi tout le récit qui raconte l'organisation petit à petit d'une grève. Alors qui commence par la prise de conscience petit à petit etc. Et puis les premières manifestations de ça, c'est d'abord une grève du zèle, hein, c'est-à-dire non pas un arrêt du travail, mais au contraire un ralentissement des cadences. Avec une espèce d'application stricte et de toutes les règles. Bon, à la limite des règles, là, il n'y en a pas. Ça consiste surtout à ralentir tous ensemble, tous collectivement, et à échapper en quelque sorte à la prise de la hiérarchie et puis du contremaître. Il y a aussi tout un tas de passages où il explique quels sont le monde. Tout ça, les techniques utilisées par le contremaître pour opposer les différentes catégories de l'équipage entre elles, bien évidemment. Donc, pour valoriser la récolte par les pêcheurs au détriment du tri des carcasses et puis des séparations des carcasses de crabes par les ouvriers qui sont donc mis en concurrence les uns contre les autres. Bon, alors il explique comment ça a marché à un moment, comment effectivement ensuite il va mettre en concurrence l'équipage du navire par rapport à la production annoncée sur les autres bateaux de la compagnie, et comment ils essayent toutes les techniques pour évidemment diviser le prolétariat, pour mieux régner, pour mieux exploiter la main d'œuvre. Donc comment tout ça finit finalement de toute façon par échouer, parce qu'il y a un moment donné où même en pressurant comme des malades la main d'œuvre, la production plafonne par tout simplement les nécessités de refaire la force du travail, de se reposer. Alors pour la première grève, les premières tentatives de débrayage, On a ça donc lorsque la conscience prolétarienne a atteint le son degré suffisant, évidemment. Donc alors là, c'est le début du chapitre 8, on est page 120. Alors, il n'affichait d'abord aucune revendication, nous dit le texte, il ralentissait le rythme, mais imperceptiblement, afin de ne pas se faire prendre. L'intendant pouvait bien piquer une de ses colères de tous les diables, crier, tonitruer, donner des coups de gourdin à gauche, à droite. Il restait bien docile et ne protestait même pas. Il faisait cela un jour sur deux, quoiqu'au début, ils étaient sur leur garde. Sous cette forme discrète, l'habitude des débrayages s'installait. Depuis le coup des funérailles en mer, les rangs des récalcitrants étaient de plus en plus fournis. Alors, les funérailles font référence à un épisode un peu précédent, au cours duquel un des étudiants enrôlés de force en fait est mort de malnutrition en fait sur le navire et a été balancé en pleine mer en guise de d'enterrement, sans cérémonie, sans même que le travail s'arrête et que ses camarades ne puissent effectivement faire une cérémonie en hommage du type. Donc on a ça aussi, un certain nombre de scènes lorsque le courrier arrive à bord. En fait, des événements qui sont pas qui en tant que tels sont des événements de la vie quotidienne effectivement de l'équipage, mais qui mettent qui insistent sur ça, cette espèce de distance qui les coupe du monde en quelque sorte, sur l'effet huis clos évidemment du bateau. Alors donc depuis effectivement le coup des funérailles en mer, les rangs des récalcitrants étaient de plus en plus fournis. La production chutait à vue d'œil. Les pêcheurs plus âgés étaient bien sûr les premiers à souffrir dans leur chair à cause des cadences imposées, et pourtant ils renâclaient quand on leur parlait de débrayer, même quand leurs craintes les plus inavouables ne se vérifiaient pas, et qu'à l'inverse, contre toute attente, les débrayages fonctionnaient bien. Ils avaient fini par se rendre aux arguments des plus jeunes. Les chefs de chaloupe se retrouvaient dans une position délicate car ils étaient tenus pour pleinement responsables de leurs équipes. Ils étaient en porte-à-faux entre l'intendant et les pêcheurs de la base. Si la pêche n'était pas bonne, l'intendant leur demandait aussitôt des comptes. On ne pouvait pas imaginer plus inconfortable situation. Finalement, un tiers d'entre eux se rangèrent par la force des choses du côté de leurs hommes, tandis que les deux autres tiers restèrent les serviles agents de l'intendant, se contentaient d'entériner. Ah ça, bien sûr, c'est fatigant, mais c'est pas comme à l'usine ici, disait-il. Le rythme n'est pas fixé à l'avance. On doit travailler avec du vivant. Les crabes, c'est pas comme des humains. On peut pas leur demander de venir pointer à l'horaire prévu. On n'y peut rien. Des vrais perroquets. Alors voilà ce qui advient. Voici ce qui advient. Ce soir-là, dans le merdier, donc le dortoir, les hommes étaient en train de bavarder avant d'aller se coucher. Et puis un chef de chaloupe avait un peu roulé des mécaniques. À la vérité, il n'avait pas vraiment fait exprès, mais son attitude avait mis hors de lui un pêcheur de la base. Il faut dire que ce pêcheur était un peu éméché. Qu'est-ce que tu dis ? Avait-il explosé ? Mais pour qui tu te prends ? Tu ferais mieux de pas la ramener. Parce que si c'est comme ça, la prochaine pêche, on s'y met à 4 ou 5 et on te balance par-dessus bord. Et puis on n'en parle plus. Oublie pas qu'on est en mer du Kachachka. Il n'y aura pas de témoins. Personne n'avait jamais parlé comme ça. Avec une grosse voix en colère en plus, il y eut un lourd silence. Toutes les conversations cessèrent brusquement. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. Échappé dans le feu de la discussion, il avait été poussé à les prononcer par quelque chose, une force prodigieuse qui l'y contraignait. Pourtant, ce pêcheur qui n'avait jamais appris qu'à obéir avait d'abord refoulé cette force. Il n'avait pas encore compris que c'était précisément sa propre force. Voilà. Donc on a vraiment à la fois une espèce de pédagogie, voilà, de l'émancipation par le collectif, etc. Enfin voilà, on est en terrain ultra connu, et en même temps, il y a une manière de raconter ça, d'écrire ça, qui je trouve est vraiment assez... assez impressionnante. Et donc après ça revient, la réaction roule en quelque sorte dans l'équipage, hein, avec la ramène pas, la phrase avait fait Flores à tout bout de champ. Maintenant c'était et toi la ramène pas, même dans les situations qui n'avaient rien à voir. Pourtant parmi les pêcheurs, pas un n'avait l'intention de la ramener, etc. Alors ensuite vous avez tous les plans qui sont faits par un des étudiants, donc qui est quand même l'intellectuel de l'équipage, qui est en mesure de construire un organigramme pour répartir le comité de grève, les représentants, structurer l'équipage en fonction de leurs intérêts, donner des porte-paroles pour organiser le mouvement, avec toujours cette espèce d'apologie du collectif, hein, le collectif. Alors évidemment le truc c'est toujours à deux faces cette affaire-là, c'est-à-dire qu'il y a à la fois évidemment c'est le salut par le collectif, quoi, hein, c'est le salut effectivement par le collectif,
et ce qui est pas forcément étranger à la culture japonaise traditionnelle.
Exactement, mais ça sonne effectivement ça sonne de manière assez spéciale,
c'est ambivalente,
en fait.
Peut-être.
Alors, ambivalente et aussi spéciale, assez émouvante en fait, je veux dire, parce que tu sens que t'as le, enfin, aucun des personnages n'est mis en perspective individuellement, hein. On sait juste, voilà, on connaît, c'est des ils sont toujours abordé à partir de caractéristiques descriptives externes. Il y a l'étudiant, l'ouvrier, le fils de paysan, soit il a une famille, soit il n'en a pas, soit il est marié, soit il n'en a pas, soit il a des enfants, soit il n'est pas enfant. Mais il n'y a aucun travail d'introspection, en fait, aucune construction de l'intériorité du personnage, de ses états d'âme, de ses spéculations, de ses réflexions. Aucun monologue. Il n'y a aucun monologue.
L'intériorité, c'est bourgeois.
C'est bourgeois, donc de toute façon, c'est bourgeois. Mais là, on sent, il y a il y a pas de place à ça, quoi. Et en même temps, il y a quelque chose. On est une espèce de, comment dire, de d'écriture assez épique, en fait, hein, sur effectivement cette espèce de construction, de prise de conscience du héros collectif. Ouais, bah,
l'épopée classique ne connaît pas non plus l'intériorité. Hein.
Et
c'est uniquement l'action et l'action collective.
Et alors la mise en perspective de ça, voilà, effectivement, avec ces barbares russes qui paraissent en fait des espèces de lettrés avec deux siècles d'avance sur la paysannerie japonaise, le tout effectivement en mer du nord Japon donne effectivement voilà une coloration assez étonnante à ça. Alors évidemment avec l'ambivalence que tu suggérais, c'est qu'à la fois c'est assez flippant, c'est-à-dire que c'est sans le collectif l'individu n'est rien. Donc évidemment, c'est aussi la base du fascisme, hein, et du totalitarisme en général. Et en même temps, effectivement, il y a une espèce de mécanisme pour montrer comment ça structure, comment ça émancipe, comment ça libère et quelle force collective ça donne effectivement aussi à chacun pour s'opposer à une injustice, à des abus hiérarchiques, etc. Et donc effectivement, c'est assez étonnant la manière dont ça. Et du coup, ça explique peut-être, si tu veux, que j'en parlais au début, mais l'espèce de regain d'intérêt que ce bouquin a pu avoir il y a maintenant une dizaine d'années, au moment de la crise de 2008, et notamment dans la jeunesse japonaise. Parce que si tu veux, t'es quand même sur un truc qui paraît un peu exotique du point de vue de la description des conditions de boulot, du point de vue des conditions de... Et il semblerait que tu as eu effectivement un effet d'identification immédiat. Et je pense que c'est lié effectivement à cette espèce d'abstraction
dans la présentation des personnages, peut-être.
Alors, tu as l'abstraction, donc c'est facile de s'identifier.
C'est facile de se projeter
là-dessus. Oui. Et surtout, effectivement, l'espèce d'organisation à la fois hiérarchique et quasiment organique, si tu veux, de l'équipe du collectif de travail. Hein, où chacun, effectivement, est vraiment un rouage solidement vissé, etc. Et la manière dont, effectivement, ce type de rapport de pouvoir là dans le cadre du travail et le type d'exploitation que ça permet, le type d'allégeance que ça appelle, le nationalisme qui est aussi derrière, parce que oui, le nationalisme impérial, on est passé à un nationalisme mais qui est plus impérial mais qui reste là, explique peut-être effectivement que du coup ça paraît pas du tout exotique pour toute une frange du salariat précarisé japonais, et que du coup ça a pu effectivement expliquer une espèce d'adhésion beaucoup plus directe que celle que nous on peut peut-être avoir d'ici. Moi ce que je mets en avant c'est un plaisir de lecture en fait, hein, surtout que j'ai pu avoir sur le texte là. Après, du point de vue politique ou du point de vue de l'identification, ça paraît très marqué quand même,
c'est compliqué,
c'est plus compliqué, mais peut-être qu'effectivement voilà, à la fois l'abstraction dans la manière dont les personnages sont posés et puis le type de rapport de pouvoir que ça décrit et le type de mobilisation aussi que ça oppose explique un peu ça.
Voilà, donc c'était Jean-Mathias qui vous présentait avec José en régie et puis Michel, moi-même, un livre de Takiji Kobayashi, Le bateau usine aux éditions Alia, qui a été publié en 2015. Et voilà, on va vous passer un dernier morceau de musique avant que Willy prenne la relève. Willy Anonymous avec son masque, il a essayé de nous faire peur, Henri. Il a essayé de nous faire peur.
Moi,
voilà.
Il m'a fait peur, moi.
Ouais, presque. Hein. Bon. On se retrouve normalement dans 15 jours et pour un autre jeudi noir. Vous pouvez retrouver ça sur Gurdulu, Archive, Jeudi Noir. A plus. Under the floorboards, fathoms below, there it is, waiting. Them stretch from the roof to the floor and back again. The sky is glowing and the vineyards are ripe. You are sat on a truck full of watermelon, heading north to Germany. As for me,
your bed for almost an hour. Then off with my friend to walk along the Thames, and then have some Chinese food. Soft shell crab, not the best, should have stuck to the basics. Soft shell crab, not the best, should have stuck to the basics. Smile, the TV is on behind.